Bienvenue sur RLP pour notre rubrique Culture éclair. Une demi-heure d'échange, de partage, de passion, d'idées de sortie et tout simplement de plaisir. Bonjour et bienvenue sur RLP pour notre rubrique Culture éclair. Aujourd'hui, nous avons Aïda à la technique, Valérie à l'animation et Séverine Mazière, notre invitée.
Bonjour.
Bonjour Séverine. Séverine est écrivaine. Écrivaine dans le très grand sens large du terme. Séverine est périgourdine et elle vient de sortir un nouveau livre, un thriller, Épigone. Donc elle va nous parler d'Épigone, mais elle a également écrit un autre livre entre gris clair et gris foncé. Et nous allons également lui demander de nous parler de son activité d'écrivaine au-delà de celle d'écrire des romans. Séverine, Épigone, ce dernier roman, vous l'avez écrit la nuit, je crois ?
Effectivement, c'est un roman qui parle d'un tueur en série qui sévit en Dordogne et plus particulièrement sur les alentours de Périgueux et qui sévit la nuit. Il sévit la nuit du changement d'heure d'hiver. Donc j'ai imaginé un personnage qui, à 3 heures du matin, quand tout le monde remonte sa montre parce qu'il n'est plus que 2 heures du matin, on revit la même heure. Lui, il se dit qu'il a une heure à tuer. Donc voilà, j'ai imaginé un serial killer qui tue la nuit du changement d'heure d'hiver. Et il se trouve que moi, en 2020, après avoir eu ma troisième fille, je dormais pas beaucoup la nuit. Et franchement, c'était vraiment une épreuve de ne pas dormir, en ayant aussi les deux grands dont il fallait s'occuper. Et plutôt que de faire des bêtises et d'être une mauvaise maman, j'ai géré comme je pouvais les émotions et puis les hormones et tout ce qu'on voudra. Et j'écrivais la nuit avec elle dans les bras. Donc j'ai écrit Épigone avec ma fille dans les bras, effectivement, une partie de la nuit, une partie de mes nuits pendant plusieurs mois.
D'accord, combien de mois ?
Alors, elle est née au mois de septembre. J'ai pas écrit tout de suite au mois de septembre, mais j'ai repris à peu près au mois de novembre, pendant une année, puisque ça s'est terminé le 9 novembre 2021.
Et pendant 9 mois, on écrit ? Ou alors, ces neuf mois où il y a l'écriture, la relecture, le réajustement. Comment ça se passe ?
Non, ça a été vraiment une année d'écriture, et d'écriture pure. Ce que j'ai appelé, moi, le premier G. C'est-à-dire que j'avais imaginé une trame, j'avais imaginé des personnages, j'avais imaginé une histoire, en fait, avec un chapitrage, avec des événements, des lieux. J'avais fait du repérage sur Google Street View, j'avais fait du repérage sur place aussi. Enfin, voilà, j'avais construit des fiches de personnages. Mais après, d'une seule traite, je me suis mise à rédiger chaque chapitre, mais sans recorriger, sans relire, sans reprendre. Et je l'ai planté là au mois de novembre 2021, quand il a été complètement écrit, pour enchaîner sur l'écriture du deuxième roman. Jusqu'en avril 2022. Et après, j'ai repris Épigone. Après l'avoir abandonné pendant quelques mois, je l'ai repris, je l'ai relu, je l'ai corrigé. Et ensuite seulement, dans l'été, je l'ai soumis à ce que j'appelle des bêta-lecteurs, c'est-à-dire mes premiers lecteurs, qui ont découvert ce roman, que j'estimais terminé pour moi, en tout cas, corrigé pour moi. Ils m'ont fait des retours, ils étaient 7. 3 m'ont dit « La fin, c'est pas possible, tu peux pas nous laisser comme ça, il faut que tu la changes ». 3 m'ont dit « J'adore la fin, surtout ne change rien ». Et le dernier m'a dit « Bon non, fais comme tu veux, moi ça me gêne pas ni l'un ni l'autre ». Donc bon, c'est parti chez des éditeurs. Et puis mon éditrice m'a dit « Non, vous pouvez pas terminer comme ça ». Donc
vous avez changé la fin.
J'ai de nouveau, alors ça c'était 2023, j'ai signé avec ma maison d'édition en mai 2023. Et entre novembre 2023 et mai 2024, on a passé plusieurs mois à réécrire avec mon éditrice. J'ai eu un accompagnement pour réécrire, pour retravailler les dialogues, retravailler certains chapitres, certains personnages secondaires. Et ma fin a changé et j'ai écrit un épilogue en plus.
Alors, on ne va pas vous la demander, puisqu'on sait toujours que la fin, c'est le dénouement. Ah, non, il ne faut absolument pas, il faut lire le livre. Ces mois de travail où vous êtes revenu sur le livre, c'est un nouvel apprentissage. Vous avez appris des choses en même temps ou c'était lourd?
Alors, c'est mon premier roman. Donc, jusque-là, je n'avais écrit que des nouvelles. Donc, c'est un travail de longue haleine. C'est un vrai travail de fond qui a été repris après avec l'éditrice pour correspondre à sa collection, qui est la collection Suspense. Les maisons d'édition, c'est Alter Real. L'idée était de retravailler vraiment les dialogues parce que ce n'était pas quelque chose qui était évident pour moi. Quand on est dans une nouvelle, le texte est court. On est dans quelque chose d'assez lapidaire où on doit aller à l'essentiel, où il y a peu de personnages, où il y a forcément moins d'action. Là, dans un roman, il faut vraiment délayer sur des dizaines de milliers de mots. J'étais partie sur un roman qui faisait un peu plus de 60 000 mots au départ. Il en fait 75 000 à l'arrivée. Je fais partie des auteurs qui sont vraiment secs. Donc il fallait un petit peu mettre de l'huile pour graisser les rouages de ce que j'avais écrit.
D'accord. Est-ce que vous avez un modèle, vous, au niveau de l'écriture, de la lecture des livres ?
Un auteur qui vous attire. Alors, j'ai commencé par écrire des nouvelles parce que je lis depuis que je sais lire et j'adore écrire depuis que je sais écrire. Donc, j'ai retrouvé des cahiers d'enfants avec des dessins, avec des histoires. Je dois avoir 6 ou 7 ans, 8 ans. Donc, j'ai toujours écrit. Mais vers l'âge de 10-12 ans, j'ai découvert Maupassant, les nouvelles de Maupassant. Et là, j'ai eu envie d'écrire des histoires avec des chutes. Ou à la fin, quand on lit la dernière ligne, le dernier paragraphe, on se dit « Oh, je ne l'avais pas vu venir ». Moi, c'était ça mon modèle et c'était ce que j'avais envie de reproduire dans mes nouvelles. Et puis, quand j'ai été confrontée aux maisons d'édition, on m'a dit « Oui, vous avez une jolie plume, vous écrivez bien, mais la nouvelle ne se vend pas. » En France, le recueil de nouvelles, c'est un genre à part qui n'est pas du tout... dans les tops des ventes, et donc les éditeurs ne se mouillent pas quand ils ne connaissent pas un auteur pour prendre un recueil de nouvelles. Donc j'ai été refoulée. Je l'ai publié par mes propres moyens sur Amazon, c'est Entre gris clair et gris foncé, qui était déjà sorti en 2016 sous le nom Des nouvelles d'ici, avec une première mouture où il y avait 13 textes, cette fois-ci il y en a 18, qui ont été retravaillés entre-temps aussi. Et puis parmi les nouvelles que j'avais écrites, il y avait ce chapitre 1, ce texte qui est devenu aujourd'hui chapitre 1 d'Épigone, qui était en fait une nouvelle à l'origine. J'avais cette idée d'un tueur qui tuait au changement d'heure. Et je trouvais ça drôle de dire on revit une heure, donc on revit quelque chose, on en profite pour faire quelque chose. Mes nouvelles sont toujours assez noires. On m'a dit que j'avais écrit des choses cruelles. Donc ça, c'est le dilettante, la maison d'édition du dilettante qui m'avait fait ce retour en me disant que mes nouvelles étaient bien écrites, certaines étaient cruelles. Et quand on m'a dit ça, je me suis dit c'est chouette, c'est exactement ce que je veux. Je me suis dit ça correspond bien à Maupassant. Mais voilà, ça, ils n'achètent pas des nouvelles. Donc on m'a dit, il faut que vous passiez sur un format plus long et un format roman. Donc à partir de ma nouvelle, je me suis dit, allez, je retravaille les personnages, je travaille une vraie trame, je travaille toute une histoire et on verra ce que ça donne.
Vous avez parlé de 2 maisons d'édition, là. Ça veut dire que vous l'avez envoyé à combien de maisons d'édition ?
Pour le coup, le polar, je ne l'ai pas envoyé aux dilettantes. Je l'ai envoyé à une petite dizaine de maisons, je ne sais plus, 9, 10, peut-être 11, je ne sais plus. Je l'ai envoyé d'abord à un concours. Les éditions du 38 organisaient un concours de polar. Je n'ai pas été choisie, voilà. Je l'ai envoyé à 2 ou 3 grosses maisons d'édition en me disant, après tout, je tente, qui ne tente rien à rien. Mais voilà, Fleuve, ce genre de maisons d'édition où ils ont des collections de polar noir. Il faut montrer patte blanche pour rentrer dans le noir. Et c'était pas mon cas. Donc j'ai découvert ma maison d'édition un peu par hasard sur les réseaux sociaux parce qu'elle faisait une publicité pour un autre auteur qui sortait son premier roman. Et j'ai trouvé la publicité et la manière dont ils avaient présenté l'auteur en question très intéressante. J'ai acheté le livre, je l'ai lu. J'ai acheté d'autres livres de cette maison d'édition, je les ai lus, j'ai contacté des auteurs qui étaient publiés dans cette maison d'édition et je me suis dit pourquoi pas, après tout j'envoie mon manuscrit, on verra bien. Et 10 jours après, mon éditrice me rappelait, je ne savais pas que ça allait être encore mon éditrice, mais elle me rappelait. Moi j'ai cru à une arnaque, parce qu'honnêtement quand un éditeur vous répond au bout de 10 jours, on se dit ok, il faut payer combien ? Parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition malheureusement aujourd'hui qui sont en fait de simples imprimeurs et qui font payer les auteurs pour être publiés. Et en fait, non. Elle me dit, écoutez, vous tombez dans un très bon timing. On était en mai 2023 et elle était en train de boucler l'année éditoriale 2024. Donc elle me dit, moi, j'ai besoin de 2 auteurs complémentaires pour boucler mon année. Et si ça vous intéresse, si votre roman n'est pas encore édité chez un autre éditeur, nous, ça nous intéresse. On a discuté du contrat, on a signé au mois de juillet. Et il est sorti là, le 1er juillet, un an après.
D'accord. Alter Réal, c'est une maison d'édition qui se trouve où ?
Elle est basée à Tours.
D'accord. Ok. Pas trop loin.
Non, pas trop loin. C'est pas une maison parisienne, mais ils ont une très belle... 3 très belles collections, en fait. Ils ont une collection suspense en polar, et ils ont une collection imaginaire et une collection romance.
D'accord. Et là, vous allez essayer de vous faire... Vous allez, donc, j'imagine, poursuivre chez Réal et essayer d'autres éditeurs ? Ou alors vous êtes en pause, là, maintenant ?
Mon deuxième roman est écrit. Malheureusement, mon deuxième roman ne correspond pas à leurs 3 collections. Donc je repars à zéro, il va falloir trouver une nouvelle maison d'édition. C'est un roman de société, donc
ça collera qui pas se passe en Périgord
Oui, pour une bonne partie du roman, oui. Mais pas exclusivement.
On peut vous en demander quelques lignes, vous pouvez nous raconter
Alors, ce deuxième roman est un roman de société qui est très inspiré puisqu'il s'appelle « Les tribulations d'une jeune prof » et j'ai été prof pendant 15 ans dans une vie antérieure. Et donc, je m'inspire de faits réels de mon parcours depuis le concours jusqu'à ma démission, puisque j'ai démissionné.
Donc, c'est une histoire plutôt contemporaine.
Histoire contemporaine, inspirée de faits réels, mais qui n'est pas, enfin que j'ai romancé bien entendu,
bien sûr.
Et où j'essaye de raconter des anecdotes du quotidien de ma vie de prof et de mes collègues, de leur vie de prof aussi, et des élèves et des parents d'élèves, et etc.
Donc si j'entends bien, les élèves ne vous manquent pas. Non. Les mots vous manquent, les mots vous sortent, ils créent des histoires, ils vous aident à vivre, ils vous font vivre, la classe moins. En fin de compte.
J'ai aimé ce que j'ai fait pendant 15 ans. Je ne regrette rien. J'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai eu des élèves extraordinaires. D'autres beaucoup moins. Mais c'est comme ça.
Ouais, tout à fait. Et donc, vous êtes, je le disais tout à l'heure en introduction, écrivaine de métier.
Oui.
Alors, écrivaine publique, mais c'est un mot qui est un petit peu galvaudé. On ne sait pas ce qui se cache derrière. Je dirais que vous, en tant qu'écrivaine, vous en vivez. Parce que c'est vrai qu'on entend... On s'imagine souvent que l'écrivain, c'est quelqu'un qui est dans son coin, qui est plus ou moins à l'ombre, les volets tirés, et qui essaie d'en vivre. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'écrivaine ?
Alors, en tant qu'écrivain, tout court, ou autrice, je ne vis pas. Mes romans, malheureusement, ne me font pas encore manger, mais ça met du beurre dans les épinards. Et puis, c'est un vrai plaisir.
Oui.
Mais le métier d'écrivaine publique, oui, c'est mon métier depuis 2013. Après, le métier d'écrivaine publique, j'ai plusieurs casquettes à l'intérieur. C'est à la fois de l'écriture, de la correction, de la transcription, autant pour les particuliers que pour les professionnels, que pour les associations, que pour de grandes instances aussi. Tout dépend des missions qui me sont confiées.
Beaucoup de missions de transcription pour du juridique, pour...
Entre autres, pour des... cabinet de sténotypie pour des tribunaux, pour des grandes entreprises, où je transcris les procès-verbaux de réunions. Ça n'a rien de glamour, ça n'a rien de roman, c'est la réalité. Et en même temps, bah, ce sont plein de choses du quotidien, finalement, qui me font rentrer dans plein de métiers différents et qui sont une source inépuisable pour mes personnages et mes romans.
Ça, je m'en doute. Ce qui veut dire que l'IA n'a pas... l'intelligence artificielle n'a pas réussi à prendre cette place, parce qu'on se dit très souvent qu'on peut enregistrer, puis il y aura un petit robot derrière qui va réussir à tout remettre en forme.
Oui, oui. Alors si l'IA en reconnaissance vocale commence à faire d'énormes progrès, ce qu'il y a, c'est que mes clients demandent à avoir une discrétion absolue, ce que l'IA n'offre pas, puisque l'IA, vous repartagez ensuite de manière publique les données, il repioche dedans. Donc là, moi, quand je travaille pour de très grands groupes, pour des grosses entreprises, des banques d'affaires et autres, les banques ne veulent pas que leurs données soient diffusées. De ce côté-là, au moins, il y a le côté sécurité qui doit être maintenu et l'IA ne le permet pas. En tout cas, pas au sens où on ferait de la reconnaissance vocale sur des enregistrements vocaux qui seraient transmis, voilà. Et puis elle n'est pas encore au point dans le sens où on a énormément de jargon interne. Chaque entreprise, en fait, a ses propres acronymes, ses propres... tout ce qui est technique, etc. Et donc là, on a... Alors l'IA apprend, bien sûr. Donc on peut imaginer qu'au fur et à mesure, si chacun avait un micro et qu'on avait un interrupteur qui permet d'ouvrir et fermer les micros et qu'on savait exactement qui parle, etc., ça pourrait peut-être fonctionner. Ce qu'il y a, c'est que dans la réalité, quand on a un débat houleux entre la direction de l'entreprise et le personnel représenté avec les élus et qui s'engueulent, ben non, ils parlent tous en même temps. Et là, il n'y a que l'oreille humaine, l'IA, elle est perdue, elle ne sait plus qui parle. Elle sait plus.
Et là, vous êtes sur place, vous vous déplacez ou c'est un enregistrement ?
Alors ça peut arriver que je me déplace effectivement sur des réunions, mais la plupart du temps, c'est une sténotypiste qui se déplace, c'est un cabinet qui se déplace et qui prend la première frappe, en fait, la première, les intervenants, etc., et puis qui me fournit le fichier audio, voire le fichier vidéo, quand il y a aussi de la vidéo, et qui me rapporte les dossiers avec tout le jargon, avec tout ce qui a pu être diffusé pendant la réunion, tous les documents, voilà.
Retranscription donc de réunions, vous nous avez dit, et peut-être autre chose, je pense que tout ce qui, on en parlait tout à l'heure un petit peu à part, tout ce qui est CV ou lettre personnelle, ça c'est, je dirais,
alors,
c'est
j'en
très secondaire,
peu,
c'est presque du social.
C'est l'écrivain public avec la partie sociale, effectivement, où on a pas mal de gens qui contactent pour rédiger des CV, lettres de motivation, ou des courriers parfois. La plupart du temps, ce sont des gens qui sont âgés et qui ont peur de mal faire, avec l'administration notamment, ou quand ils ont un recours à écrire pour une assurance ou autre, et qui ne savent pas comment s'y prendre. Ça peut être des étrangers aussi, qui vivent en France parfois depuis longtemps, qui ont la langue à l'oral, mais pas forcément à l'écrit, et qui ont besoin d'aide pour ça. Et que j'aide bien volontiers. Après, ce n'est pas ce qui me fait manger au quotidien, il faut être honnête là-dessus. Quand un petit monsieur de 90 ans vient vous voir en vous disant « j'ai un problème avec mon assurance, il faut m'aider à rédiger un courrier » et qui m'explique pendant 2 heures son gros souci et qu'en fait, je mets 20 minutes à écrire le courrier, je ne vais pas lui facturer 2 heures. Donc dans ce cas-là, je prends des créneaux différents et... je fais ça en complément pour aider les gens. Et ça fait partie aussi des belles rencontres et des belles choses qui sont tout à fait agréables. Comme la biographie. La biographie, par contre, là, j'ai des...
Oui, c'est aussi un créneau, la biographie. Aussi des... Je pense que ça se développe. Il y en a de plus en plus de demandes, non ?
De plus en plus, je ne sais pas. J'ai forcément de plus en plus de demandes parce que je suis de plus en plus connue aussi pour faire ça depuis un peu plus de 10 ans. Ce sont des familles... Ce sont souvent les enfants et les petits-enfants, en fait, qui me contactent de la part de leurs parents, leurs grands-parents. En me disant, voilà, j'aimerais... ma grand-mère me raconte des petites bribes au repas du dimanche où le grand-père raconte des anecdotes de quand il était enfant. Et les enfants ou les petits-enfants ont envie d'avoir ça quelque part conservé et de pouvoir, quand la personne ne sera plus là, s'y référer s'ils en ont envie. Et sachant que souvent, ils ne savent pas tout. Il y a beaucoup de choses qui sont parfois tabous et qui sont révélées... dans ce livre-là. Alors parfois, il y a des tabous qui restent des tabous et qu'on ne révèle pas, qui me sont révélés, mais que les gens, après, refusent de mettre dans le livre final en me disant « Ben non, ça, finalement, on va peut-être pas le mettre comme ça. » Ou voilà, on ménage encore parfois des susceptibilités ou des difficultés. Mais globalement, oui, les gens aiment transmettre leur histoire. Et c'est un travail là, qui se fait sur plusieurs mois et même parfois plusieurs années, selon le volume à raconter et la vie des gens. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des vies... Alors, extraordinaires, oui et non. J'ai envie de dire que c'est pour tout le monde. J'ai parfois des gens qui me disent « Mais moi, j'ai rien à raconter, il veut que je raconte. » Mais rien que le décalage de 2 ou 3 générations fait que c'est extraordinaire. Parce qu'ils sont nés sans Internet, sans téléphone.
C'est pas
sans...
les mêmes repères. Hein.
C'est ça. Donc, de toute façon, leur vie a forcément été différente et a forcément été extraordinaire dans les yeux des enfants et des petits-enfants. Mais c'est toujours des rencontres extraordinaires. Moi, j'aime ce que je fais et franchement, j'ai pas de mauvais. Enfin, il y a des histoires dures. Il y a des histoires dans la guerre. Il y a des histoires. Enfin, moi, j'ai des clients qui sont nés dans les débuts des années 30 et qui se rappellent très bien de 39-45 ou de la guerre d'Algérie pour certains ou de voilà qui ont vécu des choses difficiles. Qui ont surmonté des deuils, des maladies, des accidents, des choses compliquées. Mais ça reste très, très riche malgré tout.
Vous nous avez parlé de ces petits cadavres dans le placard. Est-ce que ça peut faire l'objet d'un troisième roman ?
Alors, les sujets de mes clients restent confidentiels.
On ne saura pas que ce sont ceux
bien
de
sûr,
vos clients.
Bien sûr, bien sûr. Après... des anecdotes, oui, peuvent servir. Voilà, quand j'ai quelqu'un qui m'explique son métier d'infirmière dans les années 80, bon, bah là, on peut se dire que je peux situer un personnage qui est dans les années 80 et qui a ce métier-là. La personne m'en a parlé pendant longtemps. Je pourrais parler d'un chaudronnier, je pourrais parler de petites choses comme ça. Mais après, je ne me servirai bien entendu pas du tout des histoires de mes clients qui leur appartiennent totalement.
Tout à fait. Si vous avez des jeunes, un jeune qui vient vous voir, qui vous dit « j'aurais envie de devenir écrivain », qu'est-ce que vous le conseilleriez ?
D'abord, ils peuvent être même très jeunes. Mon fils a 7 ans, il sait juste écrire et il aime bien déjà commencer à faire comme maman, à raconter des histoires et à écrire... Et j'ai envie de dire, c'est la première chose à faire, c'est prendre une feuille et un papier, et puis une feuille et un crayon, et puis écrire. Ouais. Il n'y a rien d'autre à faire, en fait, d'écrire.
Est-ce que le geste, c'est important, le geste de l'écriture, ou est-ce qu'un clavier, on peut aussi...
Ce qu'on veut. Je sais que j'ai toujours sur moi 2 choses. C'est un petit enregistreur. Parce que je ne suis pas à l'abri d'enregistrer n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. et un crayon avec un carnet. Parce que c'est pareil, je peux être en train de noter quelque chose. Et il y a des moments où ça se prête plus au papier, et il y a des moments où ça se prête plus à l'enregistrement. Donc l'un ou l'autre. J'aime bien prendre des notes et puis me rappeler des informations.
Et donc là, avec le dernier livre que vous venez de sortir, Épigone, vous avez dû commencer à faire un petit peu de promotion. C'est quelque chose de nouveau aussi.
Oui.
Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, il est sorti le 1er juillet, mais il était déjà imprimé un peu auparavant. Donc, j'avais reçu mon premier lot de livres de mon éditrice. Et déjà, le déballage du carton, c'est un grand moment quand on le tient enfin dans les mains, parce qu'on a beau avoir un fichier sur son ordinateur, ça ne fait pas le même effet. Après, j'ai eu une séance de dédicace chez Marbeau, mi-juillet. J'ai été invitée au festival Noir Vézère au Bug au mois de juillet aussi, là, le 19-20 juillet. D'autres événements sont prévus. Je suis invitée aussi au salon de l'Emzour, donc salon du Périgord Vert, les 5 et 6 octobre. Il y a des dates aussi à Calais encore que je n'ai pas, en septembre notamment, parce que là, les gens sont plus ou moins en vacances maintenant. Mais j'ai des séances en dédicace qui sont prévues pour le 28 septembre chez Leclerc à Trélissac, Leclerc Culture.
Ouais.
Il y a une séance qui est prévue aussi chez Marbeau à Périgueux le 17 décembre, donc juste avant Noël. Je suis invitée aussi au salon des brèves littéraires baladines, donc à Baladou. Le 7 décembre,
ben c'est un salon. C'est où ?
C'est à la frontière. Alors c'est dans le Lot, c'est dans le 46, d'accord. Mais c'est à la frontière du 24 et du 19. On est là, d'accord, aux confins des trois départements.
C'est joli comme nom de village, Baladou.
Baladou. Et c'est le festival des brèves littéraires baladines.
D'accord. Séverine, moi je vous ai rencontrée parce que vous êtes également membre d'une association de femmes, chefs d'entreprise, les Mampreneurs.
Oui.
Il y en a d'autres comme vous qui pratiquent l'écriture dans ce groupe
Je ne sais pas. Enfin, tout le monde pratique l'écriture, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, on est tous écrivains de contenu sur nos réseaux. Donc je sais qu'il y en a certaines dont c'est le métier
d'être, et pourquoi
d'être rédactrice web.
Avoir rejoint ce groupe
Comme son nom l'indique, Mampreneur, voilà, nous sommes toutes des mamans. Moi, j'ai trois enfants, ça va du petit au grand, mais on est souvent seuls, en fait. On est souvent dans son coin, entrepreneur. Moi, en plus, je travaille quasi exclusivement en télétravail, derrière mon ordinateur à taper, sauf les rencontres que je fais quand j'ai des courriers à écrire ou des biographies. Mais le reste, tout se fait à distance. Quand j'ai écrit du contenu pour des entrepreneurs, ils peuvent se trouver en France ou ailleurs, peu importe. Ils me donnent leur sujet, leur thème, ils montrent leur site internet et je rédige. Quand j'ai de transcription, j'ai de casque sur les oreilles et puis c'est tout. On m'envoie le son et je suis chez moi. Donc j'avais besoin de ce contact humain, en fait, de remettre les collègues que je n'avais plus, les élèves que je n'avais plus, quelque part. Il a fallu re-socialiser et c'était une manière pour moi de socialiser et de rencontrer des femmes avant tout, des mamans aussi, qui ont les mêmes problématiques que moi, de trouver des clients, d'être chef d'entreprise et de vivre au quotidien dans le monde de l'entrepreneuriat qui n'est pas si évident que ça.
Très bien. Séverine, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous remercions. Nous avons passé un très bon moment.
Merci de m'avoir invitée.
C'était un véritable plaisir. Et puis, nous espérons vous retrouver pour le prochain livre.
Dans un certain délai. Ça dépendra des maisons d'édition.
Oui. Merci beaucoup, Séverine. Bonne fin de journée.
Merci.
Au revoir. I stumble.
Just one.